valigia.
Valigia, déjà des chaises. Est-ce que vous pouvez venir avec votre chaise déjà? Merci. Prendre chacun une chaise. C'est possible. Est-ce qu'on peut mettre un peu vers ici parce qu'il y a le deuxième micro qui est par là, donc ce serait mieux. Vas-y.
On a peut-être besoin d'écrire au tableau.
Non mais ça va, la chaise.
Et on en a toujours dans le GIS, hein. Tout le monde travaille.
Normalement ils sont 6, hein, ça doit aller. Je crois que c'est bon, on va arriver.
Ça va aller.
Vous êtes 6.
D'accord.
Ça devrait aller là.
Merci.
Alors,
on est deux minorités là.
Donc Ousmane et Chantal,
voilà.
Et puis vous mettez autour. Oui. Il peut y avoir encore une personne ici s'il y a besoin.
Ça va peut-être.
Donc l'idée de la table ronde, c'est d'élargir, d'avoir une vision sur un ensemble large de programmes. Déjà, on a déjà eu une partie
avec la
base de l'État de Texas, et donc on a un panel que je vais vous présenter. Alors l'idée, c'est que je vais vous présenter dans l'ordre suivant. Attendez, les micros, est-ce qu'ils marchent? Ils marchent celui-là?
Ils marchent les deux.
Donc peut-être... Oui, alors, bon, on va déjà... Je vais vous présenter chacun, alors, et ce sera dans l'ordre d'intervention, comme ça, au fur et à mesure, ça, vous allez voir dans quel ordre on essaye.
On t'entend pas, Jean-Paul.
T'as pas de part de...
Ouais, parce que moi, si je t'entends pas, là, ça part.
Donc, Jean-Paul Jeannard-Lindel, je suis professeur en sciences économiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
Alors ensuite, Gilles, tu t'attends bien,
tout
à côté.
Bonjour, moi je m'appelle Gilles Bouet, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige un laboratoire international à Dakar qui s'appelle l'UMI Environnement, Santé, Société.
Alors ensuite, j'arrive plus à voir mon nom. Oui, parce que notre...
C'était Luc après.
Oui, alors pourquoi est-ce que c'est pas dans mon... Ah,
voilà, Luc, je suis merci.
Parce que les gens, ils sont pas assis dans leur...
On n'est pas ordonné, mais... Donc, Luc Avelli, professeur d'écologie à l'Université Pierre et Marie Curie, et je dirige un laboratoire qui s'appelle Bioinco, dont beaucoup de gens travaillent en Afrique de l'Ouest.
Voilà, après, normalement, il y avait donc Jean-Luc Schott, mais qui n'a pas pu venir, et en fait, Serge nous a pas mal parlé déjà du PPR, et tu pourras intervenir dans les discussions et compléter s'il y a des questions autour de ce point 4, alors après 5,
on sera toujours...
Salvatore, mais j'ai mal écrit dans l'ordre, merci.
Oui. Merci beaucoup.
On fait la biodiversité.
Bonjour, je m'appelle Aliko Salvatore et je travaille à l'UNESCO, où je coordonne le programme biodiversité. L'UNESCO est un organisme d'organisation des Nations Unies qui s'occupe de sciences, éducation et culture.
Voilà, Chantal.
Je suis Chantal Pacteau, je suis directrice adjointe à l'interdisciplinarité du GIS Climat Environnement Société, et d'après ce que nous a dit notre collègue tout à l'heure, vous voyez que ce n'est pas une mince affaire.
Et Ousmane?
Je m'appelle Ousmane Ndiaye et je suis chercheur à la Direction nationale de la météorologie de Dakar.
Voilà. L'exercice, en fait, je vais vous demander à chacun de délivrer votre message, ce que vous souhaitez dire dans le contexte de cette journée sur les regards croisés, sur les enjeux du changement climatique en Afrique de l'Ouest, chacun en 5 minutes, et après nous prendrons un temps d'interaction avec la salle. Donc Jean-Paul, qui est bien concentré, va démarrer.
Donc, en préparant cette intervention aujourd'hui, j'ai dit que j'allais parler des vagues, essentiellement pour parler de mobilité et pour parler de droit de propriété. Et on a plein d'autres choses exactement. Donc je vais essayer d'aller vite, mais d'être clair. Les questions d'adaptation, pour le mot adaptation, je vais simplement dire ce que je comprends dans le mot adaptation et puis avancer avec ça. Pour moi, construire une capacité adaptative, c'est construire ex ante avant que les choses ne se mettent à varier, une capacité qui est une capacité en fait exposée de réagir au changement. L'adaptation ou la capacité à s'adapter au changement imprévu est quelque chose qui caractérise énormément de sociétés sahéliennes, je pense, en raison de la variabilité spatio-temporelle des précipitations, notamment, mais pas uniquement, aussi en raison d'un contexte politique qui a été et qui est encore souvent chaotique. Mais je vais me concentrer sur la mobilité et parler du pastoralisme. Alors, le pastoralisme, c'est quelque chose d'absolument magique en milieu à haute variabilité spatio-temporelle de civilisation. Pourquoi ? Parce que contrairement à l'agriculture, eh bien, le bétail peut se déplacer. Et donc, lorsque l'on constate que la pluie est tombée quelque part, dans la variabilité spatiale, on peut emmener son troupeau et le faire paître à l'endroit où la pluie est tombée. Ça peut vous sembler évident, mais moi je trouve ça absolument magique et nécessaire dans un milieu à haute variabilité spatio-temporelle. Donc ça c'est un premier point. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, et une des premières choses qu'on peut observer, c'est une espèce de contrainte dialectique forte entre modernité et tradition, entre la présence d'un État qu'on va appeler un État moderne. J'ai vu dans la présentation aujourd'hui d'ailleurs que certaines institutions internationales commencent à pratiquer la postmodernité, les curatives, etc., mais un État moderne. Et puis des structures traditionnelles. Or, le pastoralisme auquel je fais référence s'appuie essentiellement sur les structures traditionnelles qui permettent le mouvement. Cela inclut l'existence d'organisations fines dans les milieux pastoralistes, telles que la présence de scouts qui partent en éclairage pour repérer l'endroit où la pluie est tombée, où les pâturages poussent. Mais ça inclut également des structures de droit de propriété qui autorisent la mobilité du bétail, c'est-à-dire des terres qui sont accessibles à personne de l'extérieur, et des terres qui ne sont pas liées à l'agriculture. Donc on a une dialectique modernité-tradition où la tradition permet l'adaptation, en tout cas dans le cas du pastoralisme, et je ne suis pas sûr que la modernité le permette. La modernité est portée par l'État, l'autorité traditionnelle est encore très présente et n'est pas nécessairement toujours portée par l'État. Il y a une deuxième contrainte dialectique qui est la contrainte agriculture-pastoralisme, qui est un peu une invention maintenant, c'est un produit du passé, la majorité des pasteurs historiques sont des agro-pasteurs et la majorité des agriculteurs pratiquent un élevage, parfois en confiant le bétail aux pasteurs. Néanmoins, quand on met en parallèle les dialectiques État, autorité traditionnelle, agriculture, pastoralisme, on se rend compte que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, et je mettrai en exception la Mauritanie, je peux me tromper pour partie, l'agriculture est portée par l'État moderne, tandis que le pastoralisme n'est pas du tout aidé par l'État moderne. L'existence de frontières, l'existence de politiques d'intensification agricole, l'existence de politiques de titrage foncier, toute une série de choses qui n'aident pas nécessairement le pastoralisme, qui est justement la stratégie qui semble, pour moi, la mieux adaptée à la variabilité climatique. Alors, se pose, je pense, ici une question fondamentale que j'avais envie de trouver, il me reste peut-être une minute, c'est quelle place pour le pastoralisme dans l'étude de l'évolution du climat ? Quelle place pour la mobilité comme stratégie d'adaptation face au changement. Et la mobilité ici, c'est la mobilité du bétail, mais c'est aussi les migrations saisonnières entre pays différents, le travail à la côte en saison sèche et la remigration à l'intérieur des terres en saison humide, toute une série de choses qui me semblent en état tiers pour des raisons essentiellement politiques. Dernière question, et je vais terminer là, mais une question importante, c'est que on est en droit, nous, comme chercheurs, de se poser la question si en travaillant en science, c'est-à-dire en travaillant avec un des grands bras armés de la modernité, on ne risque pas souvent, pas toujours, je l'ai entendu aujourd'hui, d'oublier que en portant activement la modernité, donc je me revendique, eh bien, on ne risque pas de contribuer à faire disparaître un objet qui est un objet fondamental au niveau de la gestion du risque climatique, et cet objet, c'est le pastoralisme. Et c'était ça la question que je voulais poser en faisant une série d'affirmations assez raides aujourd'hui. Merci.
Merci. On va passer à Gilles, et puis on aura après un temps de
discussion. Merci. Oui, alors moi, donc, comme je vous ai dit, je suis directeur d'un laboratoire dont le siège est à Dakar, et ce laboratoire qui s'appelle UMI 3189 Environnement Santé Société est réparti sur la France. On a des locaux à Marseille, sur le Sénégal, on a un siège à l'UCAD, sur le Mali, l'Université de Bamako, et le CNRST à Ouagadougou. Et on travaille justement sur les relations d'une manière extrêmement pluridisciplinaire, chercheurs du Nord, chercheurs du Sud, sur ces problématiques en gros du changement. De plus, je suis aussi directeur de l'OHF des Écarés, qui est l'Observatoire au milieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous l'Observatoire au milieu. C'est un dispositif, je ne vais pas dire une structure, mais c'est un dispositif qui a été mis en place par l'INE du CNRS, qui vise en gros à observer l'impact d'une action anthropique extrêmement forte sur un environnement. Alors, ça s'est fait sur Gardanne, ça s'est fait sur un certain nombre d'endroits. Et nous, on a décidé de travailler sur l'impact, en gros, de la Grande Muraille Verte. Le projet de Grande Muraille Verte, ce n'est finalement qu'un projet de reforestation, de densification végétale d'un espace qui avait déjà eu une végétation qui a diminué à la suite de variations climatiques, mais il faudrait travailler sérieusement là-dessus, et surtout, dans la région où je travaille, dans le Ferlot, à cause d'un surpâturage absolument effrayant. Alors donc nous, on essaye de voir un petit peu les impacts de cette action sur l'environnement, à la fois naturel, l'environnement humain. On travaille sur quatre axes de recherche, au sol, climat, biodiversité, santé, systèmes sociaux. L'idée, c'est de construire des bases de données, associées évidemment à un système d'information géographique qui, effectivement, peut faire émerger pas mal de choses. Pour déboucher, parce que tout marche ensemble, bien sûr, sur le concept de système socio-écologique et son fonctionnement. Alors nous, on part peut-être finalement de la microbiologie du sol, je ne suis pas du tout microbiologiste, moi je suis anthropobiologiste. La microbiologie du sol, en passant par les écosystèmes, la faune, la flore, qui évidemment change, je pourrais vous raconter plein d'histoires, mais j'ai que 5 minutes. Autre chose qui nous intéresse fortement, c'est l'impact évidemment sur les populations. En termes de changement de vie, en particulier avec un marqueur qui s'appelle l'alimentation, et l'alimentation et le comportement alimentaire est quelque chose qui est très sensible aux variations de l'environnement, à la santé, évidemment. Quand vous êtes dans une région très sèche, vous avez un certain nombre de pathologies, comme éventuellement des formes de malnutrition, et si évidemment votre milieu s'humidifie, vous allez rencontrer d'autres maladies à vecteurs transmissibles, enfin, vous allez vous tromper. Donc c'est ce qu'on essaye un petit peu de suivre. Mais aussi, évidemment, quelque chose d'important, je dirais même essentiel, qui devrait être en amont de tout, c'est la gouvernance de tout ça. C'est-à-dire comment les populations s'approprient ce changement au niveau de l'espace des activités. Les activités, évidemment, c'est une zone de pastoralisme, puisque c'est une zone avec forêt plus élevage, il n'y a pas d'agriculture, mais avec la muraille verte, par exemple, il commence à y avoir du jardinage qui sont faits par les femmes éleveurs, et vous imaginez même pas les changements économiques, de gouvernance et politique que ça va engendrer très rapidement au sein de la commune. Donc on travaille un petit peu sur tout ça. On a la chance d'avoir un financement de l'INE qui est assez conséquent pour ce qu'on veut faire, ce qui nous permet de financer, comme les autres, pas mal de projets de master et de thèse au niveau essentiellement des étudiants sénégalais. Voilà, je demanderai une question tout à l'heure.
Merci, Luc.
Oui, donc là, moi je vais intervenir donc en tant qu'écologue. J'ai beaucoup travaillé donc, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire en particulier, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc si je me situe sur la thématique d'aujourd'hui, donc changement climatique, finalement quand on parle de changement climatique et des liens avec la société, il y a deux types de questions qui se posent. Il y a essayer de prévoir la réponse du milieu de vie, donc ce que moi je vais appeler les écosystèmes, à ces changements climatiques. Et puis il y a deuxième question, est-ce qu'on peut essayer de mettre au point des stratégies d'adaptation à ces changements climatiques. Donc sur l'adaptation, il y a un tas de dimensions sociales, économiques, etc. Mais il y a aussi une dimension proprement écologique, c'est-à-dire que les milieux vont devoir évoluer. Donc on va chercher à accompagner le changement de ces milieux naturels. On va chercher éventuellement à piloter l'évolution de ces milieux naturels, puisqu'on a des changements qui sont à un rythme extrêmement élevé. On sait très bien qu'aujourd'hui, le rythme des changements climatiques n'est pas toujours compatible avec le rythme des changements biologiques. Donc il va falloir intervenir si on veut avoir des ensembles qui évoluent de façon cohérente. Et ça peut vouloir dire aussi, sur les milieux qui sont extrêmement fortement exploités, modifier un certain nombre de pratiques, des pratiques forestières, des pratiques d'agriculture, où on a parlé juste avant, des pratiques d'élevage. Donc une fois qu'on a dit ça, si on veut généraliser, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que on nous demande finalement de, on va appeler ça jouer, entre guillemets, avec les systèmes écologiques, qui sont, comme vous le savez, des systèmes complexes. Un système complexe, donc, c'est un ensemble avec beaucoup de compartiments et une infinité quasiment d'interactions. Donc c'est un enjeu intellectuel absolument monumental, et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, finalement, pas grand monde sait intervenir sur ces systèmes complexes. On n'est pas tellement capable d'avoir des actions sur telle ou telle partie de ces systèmes écologiques complexes, et du coup d'en tirer les prédictions sur les évolutions à long terme, le contrôle des effets collatéraux qui ne sont pas toujours désirés, etc. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que si on veut avoir une chance de faire un pilotage de ces écosystèmes, on n'a plus le choix compte tenu de la vitesse des changements, et pas seulement d'ailleurs du changement climatique. Si on veut piloter ça, il faut qu'on arrive à comprendre comment fonctionnent ces systèmes complexes. Et donc pour moi, il y a deux manières d'arriver à ça. La première manière, qui a fait ses preuves d'ailleurs dans de nombreuses disciplines scientifiques, c'est de travailler sur des objets modèles sur lesquels on peut accumuler un certain savoir et comprendre finalement les grandes logiques qui hiérarchisent les différents composants qui vont donc finalement générer des réseaux d'interaction. Et là, je me base, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, sur une expérience personnelle. Pas personnel. 800 personnes l'ont eu, donc c'est pas strictement personnel, mais on a eu la chance en Côte d'Ivoire, en dépit de toute programmation scientifique et de toute logique, on a eu la chance de pouvoir travailler pendant 50 ans sur un écosystème unique, sur lequel tout a été fait, hein, depuis la dynamique des populations d'araignées jusqu'aux interactions entre la biosphère et l'atmosphère, les échanges de CO2, etc. J'en passe et des meilleurs. Et on a là un écosystème sur lequel on a compris. On a l'impression d'avoir compris un certain nombre de choses. Et actuellement, on est prédictif. On est capable de comprendre comment s'organisent les choses. Et comment, éventuellement, on peut tirer de mécanismes dits naturels, hein, qui président à l'organisation des écosystèmes, comment on peut en tirer des idées nouvelles sur la gestion, éventuellement, de ces écosystèmes qui sont soumis à ces changements rapides. Et ça, c'est pas toujours facile à faire comprendre. On a besoin de temps et on a besoin de modèles. Et donc, on a besoin d'un système scientifique adapté à ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour financer ce type de recherche. Et évidemment, on ne fait pas ce genre de recherche si on n'est pas capable d'assurer une certaine durabilité de la recherche. Donc on a parlé tout à l'heure du long terme et l'adaptation plus ou moins correcte du financement de la recherche à ça. Ce n'est pas une exigence de chercheur qui doit se faire plaisir, c'est une nécessité pour comprendre. Combien de temps on a mis pour finalement comprendre les bases de la génétique? Et comment on a fait? On a utilisé justement un ou deux modèles. Imaginez la génétique sans la drosophile aujourd'hui. Ben moi, je dis qu'on a le même problème dans cette question de comment vont répondre les écosystèmes, comment on fait l'adaptation sur ces questions-là. Voilà, et donc je reviendrai après sur un autre aspect, notamment dans le débat. C'est que ce qu'on voit, c'est que ces systèmes dits naturels, qui sont anciens, qui ont coévolué avec les changements environnementaux, en fait, ça représente des modèles de durabilité, d'efficacité et de productivité par rapport aux contraintes et aux ressources qui sont disponibles dans un environnement. Donc pour réfléchir à ces questions de durabilité et d'efficacité d'adaptation, je pense que ce sont des bons modèles intellectuels pour décrypter ces questions-là. Dernier point, ce qui compte, ce n'est pas que le système soit naturel, c'est qu'il soit en copilotage, qu'il soit en fonctionnement depuis longtemps. Il y a des systèmes complètement artificiels, des systèmes agricoles également, qui ont été mis au point dans la durée, dans des populations, dans des situations extrêmement contraintes de climat. Je pense à des exemples, par exemple, au Burkina Faso, entre autres. On pourrait y revenir. Ce sont également, par empirisme en quelque sorte, les gens ont mis au point des systèmes qui sont extrêmement performants par rapport à ces contraintes et aux ressources de l'environnement, de la même façon que l'évolution, au sens darwinien du terme, finalement, sélectionne aussi les espèces et les interactions qui sont compatibles avec les ressources et les contraintes de l'environnement. Donc faire une lecture également scientifique de ces méthodes traditionnelles, par exemple d'agriculture, pourrait nous faire gagner du temps pour trouver des stratégies d'adaptation. Il pourrait faire gagner du temps aussi pour comprendre de façon théorique les phénomènes qui sont derrière la dynamique des écosystèmes. Merci.
Merci. Salvatore.
Merci beaucoup. Donc, encore merci pour cette invitation, étant donné que je travaille dans le contexte au niveau international, dans le contexte intergouvernemental. Je vais essayer avec cette brève présentation de vous donner une idée un petit peu de ce que ça veut dire la science dans le contexte intergouvernemental du point de vue du thème du colloque d'aujourd'hui. Et j'insiste sur l'aspect intergouvernemental dans la mesure où la science dans le contexte académique, bien c'est complémentaire, mais en même temps c'est autre chose. Donc si on analyse un petit peu l'action d'une agence des Nations Unies telle que l'UNESCO, l'UNESCO n'est pas la seule agence à mener des actions en faveur de l'Afrique et dans le domaine du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique. Mais bon, je vais me baser quand même sur l'organisation pour laquelle je travaille. Et en particulier, quand on parle d'adaptation, je pense à la contribution de la biodiversité. Donc, un exemple concret, par exemple, l'identification de zones importantes pour la biodiversité qui joue un rôle essentiel du point de vue du bon fonctionnement des écosystèmes, y compris de l'adaptation au changement climatique. Alors, dans un contexte académique, on insiste beaucoup sur les principes qui permettent d'identifier des zones importantes pour la biodiversité, telles que le principe de vulnérabilité et le principe de d'irremplaçabilité. J'espère que ça existe un tel mot en français.
Ça existe depuis aujourd'hui.
Mais au niveau intergouvernemental, en fait, on est confronté à la question de la standardisation de critères que les 200 gouvernements qui sont reconnus par les Nations Unies seraient en mesure d'adopter pour identifier et sélectionner des zones importantes en biodiversité. Donc il y a tout un travail, si vous voulez, de standardisation des approches scientifiques de faire en sorte que les gouvernements puissent prendre en compte ces approches dans le contexte de leur politique environnementale ou à plan et stratégie et plan d'action nationaux sur la biodiversité. Ça, c'est un premier exemple. Donc, en fait, en Afrique, dans sa totalité, en fait, mais pas mal en Afrique de l'Ouest, par exemple, l'inventaire de zones importantes pour les oiseaux a été complété et actuellement il y a un inventaire, un processus qui mènera d'ici bientôt à la finalisation de l'inventaire des zones importantes pour la biodiversité des systèmes à eau douce. Voilà, donc ça c'est des actions, c'est un premier exemple d'action au niveau intergouvernemental dans le domaine de la biodiversité. Et y compris du point de vue de sa contribution à l'adaptation au changement climatique. Un deuxième exemple est de l'action de l'UNESCO dans ce domaine et celui de ce nouveau paradigme, si vous voulez, qui est celui des services écosystémiques qui a permis en fait au débat intergouvernemental sur la biodiversité de je ne dirais pas de mettre à côté ce mot qui est un peu à la fois magique mais aussi difficile à expliquer, qui est le terme biodiversité. On a adopté
une approche un peu plus pragmatique, peut-être un petit peu opportuniste, qui est celui des services écosystémiques. Quelle est la contribution des services écosystémiques qui sont dépendants de la biodiversité au bien-être? Et actuellement, en fait, il y a une véritable poussée de la part des organismes intergouvernementaux qui travaillent dans le domaine de la biodiversité, qui ne sont pas censés faire du lobbying, mais on essaie de travailler avec le gouvernement pour que, j'imagine que vous avez entendu parler de la conférence de Rio 20 ans après, qui va avoir lieu d'ici bientôt, au mois de juin à Rio, et bien le gouvernement sont censés quand même se mettre d'accord sur des actions importantes, des cibles, voilà, conjointes, et donc on essaye d'insister sur l'importance de prendre en compte la biodiversité et en particulier les services écosystémiques dans le contexte de ce qu'on appelle les cibles, les objectifs en fait de durabilité, c'est-à-dire aussi bien que les États se sont mis d'accord lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale sur les objectifs pour le développement pour le nouveau millénaire, eh bien, on pense que le résultat le plus important attendu, en tout cas de Rio plus 20, sera les objectifs sur la durabilité. Donc l'idée est de faire de prendre que la biodiversité, y compris de la contribution de la biodiversité au changement, à l'adaptation par rapport au changement climatique, soit reconnue sur le plan politique intergouvernemental. Un troisième exemple, est-ce que je m'abuse une minute peut-être. Un troisième exemple est l'incorporation des connaissances traditionnelles qui ont été mentionnées dans les gros travaux scientifiques, encore une fois au niveau intergouvernemental. Et en fait, l'UNESCO travaille de façon étroite avec le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, parce que comme vous le savez, le GIEC a donc été évalué par plusieurs en fait, organismes de façon indépendante, et une des conclusions a été comme quoi le GIEC n'utilise pas assez d'autres connaissances que les connaissances scientifiques publiées dans des journaux scientifiques, ce qu'on appelle la peer review de literature. Et donc, en fait, l'idée, oui, d'accord, mais comment on prend en compte ces autres connaissances? Il fallait développer toute une méthodologie. Et ça, c'est un projet qui s'appelle Climate Frontlines, qui est géré par l'UNESCO, en fait, coordonné par l'UNESCO, avec tout le GIEC. Et donc, un quatrième et dernier exemple est celui de faire comprendre à ceux qui décident des financements, là je parle du Fonds mondial pour l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire de financer un projet qui concerne l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, soit-il un projet national ou sous-régional ou régional. Eh bien, ça veut dire essayer de poursuivre une approche intégrée, parce que l'adaptation, c'est aussi l'éducation, c'est la participation des communautés locales, c'est la sensibilisation, c'est le transfert des connaissances scientifiques auprès des décideurs. Donc, si vous voulez, tous ces domaines de compétences de l'UNESCO en tant qu'agence spécialisée, on essaie de promouvoir un changement de philosophie auprès de ceux qui sont censés financer, en fin de compte, la recherche sur laquelle les décisions politiques sont basées. Donc on travaille de façon étroite avec le comité scientifique du Fonds mondial pour l'environnement dans la formulation des priorités qui permettent par la suite au Fonds mondial pour l'environnement de décider quels projets doivent être financés. Et ceci dans le contexte de deux initiatives multidisciplinaires de l'UNESCO, l'une sur le changement climatique et l'autre sur la biodiversité. Donc j'espère vous avoir donné un aperçu de ce que ça veut dire, de ce que veut l'UNESCO dans le domaine qui est le thème du colloque d'aujourd'hui. L'échelle est différente, mais tout à fait complémentaire par rapport aux actions menées par différentes instances de recherche comme les vôtres, et je pense que le combat est le même.
Merci, Chantal.
Alors, Salvatore, avec Luc, on disait que pour les la notion de service écosystémique n'était pas opportuniste. Ce qui avait été opportuniste, c'était d'avoir mis un coût dessus. Donc, moi, je suis très contente d'être l'avant-dernière parce que vous avez dit tellement de choses que ça va être plus facile d'expliquer l'initiative internationale dont je vais vous parler et dont se mêle le GIS en suscitant des rencontres entre scientifiques de domaines de recherche différents, donc cette fameuse multi, etc., disciplinarité d'une part, et les programmes des Nations Unies sur l'environnement d'autre part. Donc là, il s'agit du PNUE et des régions R20, c'est 20 régions. Monsieur Nations Unies du PNUE est là-haut. Donc il vous expliquera ça tout à l'heure devant un verre de sangria. Donc l'objectif, c'est d'utiliser deux tasks. Pourquoi on s'est rencontrés les uns les autres et nous sommes plusieurs à être commencé à construire ce processus ici. Donc il y a Jean-Paul, il y a Luc, il y a Alain, il y a Sylvie, il y a moi. C'est que nous voulons utiliser, nous proposons d'utiliser la recherche pour innover dans les approches de gestion de l'environnement et de l'adaptation au changement global. Donc Luc a bien parlé de l'adaptation comme quelque chose d'actif et non pas simplement du réactif. Donc cette initiative s'appelle TAS. Alors les copains qui ont trouvé ça, c'était compliqué, mais je vais essayer de décrypter. Donc TAS, c'est alors une initiative internationale. Donc on a des gens de plusieurs pays, du sud, du nord, etc. Alors c'est une approche territoriale. Et Ousmane et Jean-Paul vous ont expliqué à quel point les frontières quelquefois étaient délétères pour l'approche de certains problèmes. Approche to global change, donc il s'agit d'intégrer des changements en cours dans le monde. Donc on vient de parler de services écosystémiques, on a parlé d'occupation des terres, tout à l'heure Jean-Paul en a parlé avec les questions de pastoralisme, les différentes pressions qu'il y a sur les mêmes terres quand il s'agit d'agriculture élevage par exemple. Moi, je parlerai plus volontiers de l'urbanisation, parce que c'est un de mes dada, et dont le changement climatique est un multiplicateur. Le S de TASC, c'est Science Services. C'est donc les scientifiques qui parlent et qui co-construisent avec des acteurs clés des territoires concernés et les questions et les manières, les méthodologies et les manières d'y répondre. Le K, c'est Knowledge Sharing Partnership, c'est le partage des connaissances. Et là, on vient bien de le rappeler, les connaissances, elles ne vont pas dans un seul sens. Il y a la connaissance scientifique, mais il y a également les savoir-faire, les savoirs traditionnels, les savoirs empiriques, etc. Et ça peut... Et aussi des manières de poser des questions qui peuvent aussi nourrir la recherche en retour. Alors, on aurait bien aimé aussi mettre l'idée de durabilité dans cette dénomination, mais on n'y est pas arrivé. Pourtant, ils ont bien travaillé là-dessus. Moi, j'étais admirative, mais c'était impossible. Alors, notre initiative TAS, c'est un work in progress, et on va la présenter en principe à Rio plus 20, donc vous aurez largement de l'information à ce sujet en regardant ce qui se passe sur notre site, qui en général marche. C'était juste par hasard ce week-end qu'il a... de la plancher. Mais là, puisque nous sommes dans un colloque scientifique, aujourd'hui, ce dont je voulais parler, c'était plutôt de l'aspect scientifique. Et comme le disait Ousmane tout à l'heure, la science est nécessaire, mais pas suffisante. Elle est nécessaire pas seulement en proposant des modèles climatiques, de prévision, prédiction, de l'accès à l'eau, etc., etc., mais aussi en révélant comment les sociétés fonctionnent, par exemple, et ça, Jean-Paul nous en a parlé tout à l'heure, en nous parlant des acteurs, les acteurs invisibles, qui étaient par exemple les pasteurs dans certaines modélisations dont on parlait dans la journée. On a bien vu les rapports de force, Quand notre collègue des États-Unis nous a parlé de la compagnie sucrière burkinabé, qui a un monopole sur l'eau, 90% quand même, et les questions et réponses ont bien montré qu'ensuite, pourquoi elle se mêlait d'aller parler avec les autres en ce moment, c'est qu'elle-même a des problèmes, donc elle veut avoir sa place pour les résoudre. Le foncier, on en a parlé. Donc pour l'urbanisation, pour la ville, évidemment, c'est carrément ce qui est le plus important. On a parlé aussi ce matin des semences traditionnelles pour le sorgho, vous disiez Benjamin, qui fonctionnent beaucoup mieux que les semences qui sont vendues actuellement. Donc, à méditer avec les histoires des OGM. Comme disait Luc, ça provient, ces semences, si elles marchent, c'est parce qu'il y a un long processus qui est derrière à l'échelle de millénaires qui ont fait que certaines semences ont été sélectionnées et pas d'autres. Et par exemple aussi, le chercheur peut révéler les différentes échelles temporelles. Le problème du paysan, l'échelle temporelle du paysan, ce n'est pas celle du ministre ou du président. Le paysan, lui, il doit manger. Hein. Il a 3 mois pour sa récolte. Si elle rate, il aura beaucoup de problèmes. Et donc, il faut savoir effectivement comment ça fonctionne. Et là, on l'a bien vu. Donc, elle est nécessaire, la recherche, et pas seulement en termes de modélisation. Mais elle n'est pas suffisante, donc, puisqu'il y a d'autres savoirs, et que les décisions doivent être prises par les citoyens, par ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont envie d'avoir, ce qui est leur avenir, leur objectif, par les utilisateurs, les acteurs de l'économie, les politiques, etc. Donc les décisions ne sont jamais des décisions scientifiques, elles ne sont jamais des décisions purement rationnelles, il faudrait mettre telle semence ou je ne sais pas quoi, parce que le climat varie de telle manière, etc. C'est du consensus et beaucoup de dissensus et du rapport de force. Et le GIS a commencé à soutenir un projet en incubation qui travaillait vraiment de cette manière-là. C'est ERIC, ce qui veut dire évaluation des risques climatiques dans le développement des zones côtières ouest-africaines. Je suis tout à fait admirative par les gens qui arrivent à trouver des titres comme ça tout le temps. Et ce projet, qui est en cours, mais que nous on a accompagné juste pour le démarrage, hein, il porte sur la mise en œuvre d'un observatoire des vulnérabilités et des potentialités environnementales et sociale de la petite côte sénégalaise. Donc on a bien la notion de vulnérabilité, mais aussi la notion de potentialité, donc c'est résilience, et c'est plus que résilience, c'est comment je fais mieux avec ce que j'ai. Il est basé à Mbour, et c'était une base de l'IRD qui est devenue une base internationale actuellement, et il travaille sur une zone urbaine, c'est pour ça qu'il m'intéresse tout particulièrement. Donc notre idée dans le TASC, c'est de multiplier ce type d'observatoire avec dans des endroits, dans des parties du monde qu'on connaît, où il y a déjà des groupes de recherche qui travaillent, entre autres au Laos, et qui est soutenu aussi par le GIS, au Nicaragua, etc. Et ces zones d'observatoires, ces zones ateliers, ces observatoires, c'est ce qu'on voudra, nous aideront comme modèle pour d'autres problématiques. On en parlera plus tard de ça. Parce que c'est à toi.
Merci beaucoup. Donc, je suis le dernier à intervenir. Je pense que mon rôle dans ce site, peut-être de voir tout ce qu'on est en train de faire ici, comment ça peut aider dans un contexte national, d'un pays africain ou d'un cadre africain. Je pense qu'il y a des réalités qui existent. Une des réalités, peut-être, c'est nos interlocuteurs sur le plan local. Je pense que même moi, appartenant à un service national, comprends que des fois, il est très, très difficile de travailler avec des services nationaux. Des fois, quand tu as avec des ONG ou des projets ou des labos, etc., c'est plus facile sur le plan de gestion financière, sur le plan de réponse, sur le plan d'avoir des rapports, etc. Et ça, c'est important pour l'interlocuteur. Mais, le problème, c'est que si tu veux faire du développement durable, c'est les services étatiques qui sont les plus, les mieux. Pourquoi ? De un, ils sont bien implantés quand tu viens dans ces services étatiques, dans toutes les régions administratives, etc., ils sont là. C'est leur travail, ils sont là payés pour ça, donc ils sont permanents. Et ensuite, si tu parviens, ce qui est difficile à faire, si tu parviens à créer un changement sur un service étatique, c'est sûr que ça sera durable. Va dans n'importe quel service, ce qu'il faisait 10 ans à l'avance, ce qu'il continue à faire. Maintenant, dans ce contexte-là, comment allier les deux? Les ONG, leur durée, c'est 2 ans, 3 ans, ça disparaît. Ça, c'est pas durable. Mais c'est bon de travailler avec eux, c'est vite, tu peux les approcher, ils comprennent, ils ont l'expertise nécessaire. Quand tu vas dans un service étatique, ils n'ont pas l'expertise, le gars il a 10 ans, etc. C'est le même gars qui est là, il fait du blocage des fois. Mais on a besoin d'eux. Je pense que ça c'est important de voir. Ça c'est des réalités qui existent sur le terrain. Haruna a touché un point, je vais laisser terminer ça, interdisciplinarité ou multidisciplinarité. Un exemple qui a existé en Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle les GTP, groupe de travail pluridisciplinaire, qui a très bien marché. C'est-à-dire dans chaque pays, l'Agrimed, le centre Agrimed a créé ces groupes en disant que tous ceux qui travaillent autour de la saison pluvieuse, que ce soit pluie, environnement, n'importe quoi, regroupez-vous chaque 10 ans, chaque décade et faites le suivi. Et maintenant, faites des bulletins et aidez les gens pour le développement. Et ça a marché. Dans chaque pays, tu vois que ça marche. Les gens se réunissent, faut chacun amène quelque chose. L'agriculture dit voilà ce que j'ai amené, suivi de l'environnement dit voilà, les précipitations dit voilà, les services météorologiques voilà. Et maintenant, ça connaît et marche. Comment faire pour que ça puisse continuer? J'ai fait un exposé à l'Agrimed où j'ai vraiment insisté sur ça. Voilà des choses qu'il faudrait continuer à pousser. Parce que voilà un exemple où les services étatiques sont là et chacun participe. Accepte au moins de participer, chacun. Et ça demande que des moyens très, très, très réduits. Au moins ce que j'ai vu au Sénégal qui existe. Un autre problème, c'est que un technicien n'est pas forcément un bon gestionnaire. Ce que je veux dire que pourquoi les choses ne marchent pas des fois? Pourquoi les gens ne veulent pas se mettre ensemble, travailler, etc.? Parce que des fois, quelqu'un qui a un labo, qu'est-ce qu'il a? Il a un cursus qu'il a suivi. Il n'a pas fait de sciences sociales. Il a été un bon publicateur, il a fait des publications, etc. Il a bien pu se placer. Maintenant, il a un labo, il commence à le gérer. Il ne regarde que ça. Il n'a pas cette dimension sociale. Et tu peux le voir quand les gens discutent, quand les gens se battent. Tu dis que c'est des scientifiques, ils ont ce niveau-là. Mais ils ne parviennent pas à ce... Pour une question très simple, ils ne parviennent pas à régler. Tu poses la question pourquoi? Effectivement, parce qu'ils n'ont pas ce background-là. Ils n'ont pas été faits pour ça. Ils sont là avec l'ordinateur, ils parlent de l'ordinateur, ils parlent très bien de l'ordinateur. Mais quand c'est de parler avec les êtres humains, c'est autre chose. Je pense qu'il faudrait réagir avec cette dimension-là, de voir quels sont les mécanismes, les canaux pour amener les gens à se fédérer. Et ça, on l'oublie. Des fois, tu as un interlocuteur parce qu'il est très bien. Il a une thèse fantastique. Il publie, etc. Mais peut-être quand tu viens maintenant dans l'application, dans le développement, ce n'est pas la personne à choisir. Ensuite, il y a l'approche qu'on discute, bottom-up ou top-down, etc. Quelle est l'approche? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait partir à la base de la communauté, dire que nous, on travaille les communautés? Ou dire, OK, nous sommes la France, nous avons la coopération française, on sait qu'on nous écoute, faisons top-down, parlons au niveau du ministre, etc., essayons de changer les choses, etc. Ou parlons avec les grandes entités pour essayer de changer. Quelle est l'approche qu'il faut? Je pense que c'est des questions aussi qu'il faudrait regarder. Des fois, l'une des approches marche plus que l'autre. Des fois, c'est très dur de faire bottom-up, c'est-à-dire de travailler toutes les communautés, des fois que ça remonte. C'est très difficile des fois. Des fois, il faudrait simplement utiliser les services, etc., essayer de voir. L'information climatique, le problème majeur, c'est l'incertitude. Comment communiquer cette incertitude-là? Parce que quand quelqu'un veut prendre une décision, quand quelqu'un veut faire une action, il veut quelque chose de très clair et très net. Maintenant, comment former les gens pour que l'incertitude-là puisse aller? Ensuite, quand tu regardes un peu ce que j'appelle le continuum, il y a la prévision du temps, la prévision saisonnière, annuelle et le changement climatique. Quand tu regardes ça, parce que chacun est spécialiste en un des volets. Quand tu regardes les projets, l'argent qui est disponible, c'est plus dans le changement climatique, un peu moins dans les prévisions saisonnières, et peut-être personne ne parle de la prévision du temps. Personne ne va dans un pays dire que je vais développer le service météorologique pour que la prévision du temps marche. Mais le changement climatique, tout le monde le sait, ça, il y a de l'argent, etc., ça continue. Mais quand tu regardes le plan impact dans un pays en développement, ce que les gens voient, c'est ce qui se passe du jour au lendemain. Le paysan, tu dis 10 ans, 20 ans, c'est bon pour toi peut-être. Mais pour lui, il a des problèmes à régler demain, immédiat, etc. Il a de ces priorités-là. Comment faire que cette information soit un continuum? Ne pas demander seulement changement climatique, on a besoin d'une information. Pourquoi ne pas financer tout ce continuum-là pour que les services puissent marcher, etc. Il y a le problème de la durabilité qu'on a parlé. Développement propre, je pense qu'on n'a pas parlé aussi, qui est important, je pense. Parce que quand les moyens sont réduits dans un pays africain, bon, des fois, il n'y a pas ce suivi-là qui se pose. Je pense que j'ai discuté l'autre jour avec Carla, qui me parle de cette société-là. Comment ça pollue au niveau du Burkina? Personne ne peut rien parce qu'il a les moyens, etc. Donc ça, c'est important. Il y a des choses positives aussi qui existent. Moi, ce que j'ai noté, c'est l'organisation paysanne. Aujourd'hui, les paysans sont très organisés. Il y a des organisations paysannes qui existent, même au niveau CDAO, au niveau macro. il y a ce qu'on appelle aujourd'hui Atrao, je pense que ça s'appelle comme ça, qui sont très bien organisés. Ils sont partout au niveau, ils sont très bien. Donc, on a un interlocuteur qui est là et qu'il faudrait, je pense, associer à ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Dans les projets, dès le début, ils puissent dire ce qu'ils en pensent et puissent s'approprier de ces projets. Quand on a le PSK, on sait que les paysans sont organisés, on les associe. Tout ce qu'on discute, ils sont là. Ne pas dire que non, ils n'ont pas cette connaissance, etc. Non, les associer pour qu'ils puissent s'approprier de ça. Sachant qu'ils ont participé à ces étapes-là, pour voir. Bon, j'ai dit le PSK, c'est vraiment entre guillemets, mais je parle de tous les projets. Il y a l'organisation féminine aussi, en Afrique, qui sont bien organisées aussi. Les femmes sont bien organisées, bien financées, qui existent. Et je pense qu'ils doivent aussi prendre part à cette discussion-là. Autre chose qui est importante, c'est l'aspect politique. C'est important. Des fois, tu peux faire beaucoup de développement. Il suffit simplement que quelque chose parte. La Côte d'Ivoire est le plus grand exemple. On espère qu'au Sénégal, on n'aura pas la même chose. Donc, la Côte d'Ivoire, tu peux participer beaucoup au développement. La politique vient reprendre tout à zéro. Donc, c'est important l'aspect politique. Et on voit qu'il y a des changements qui se passent maintenant en Afrique. L'aspect politique, on peut l'appeler démocratie, on peut l'appeler n'importe quoi. Il y a des changements. Je pense qu'il est positif et qu'il faudrait aussi associer un peu et vous suivre ça de près. L'aspect formation, je pense que le développement durable passe par la formation. Et je pense qu'en regardant ici tous les doctorants qui sont là, tous les étudiants qui sont formés, je pense que c'est des choses positives. C'est-à-dire qu'on a investi dans le long terme, d'ici 10 ans, 15 ans, ces gens-là qui vont repartir et prendre le relais. L'autre chose qui me semble importante, c'est qu'il existe des mécanismes de financement qui existent. On a dit le COP qui existe, les fonds verts, etc. Donc il y a des choses qui existent. Comment aider les Africains un peu à aller dans ce fond-là? Parce que j'en discutais avec Serge l'autre jour en disant que moi je me suis rendu compte sur le terrain, il y a beaucoup de moyens qui existent sur place, que les Africains, les chercheurs africains doivent aller à la recherche. Ne pas toujours penser que quand je viens en France, quand je viens en Grèce, je vais chercher des moyens. Il y a des moyens sur place qui existent. Il y a des projets qui sont là, qui cherchent à avoir des expertises, pouvoir réaliser des choses. Je pense qu'il faudrait qu'on pense à ça aussi. Il y a des problèmes, il y a la corruption qui existe, qui est là, qui est un facteur. Tout le monde qui travaille en Afrique le sait. Des fois, tu mets un projet, tout est bien, mais en fin de compte, il n'y a rien sur le terrain à cause de ça. N'est-ce pas? Ensuite, je pense qu'on n'a pas de la connaissance locale, connaissance traditionnelle qu'il faut valoriser. Oui, il faut valoriser les bonnes pratiques. Je pense que quelque chose qui a marché au Burkina, je pense qu'il est plus facile de l'implémenter au Sénégal et ailleurs. Et je pense qu'il y a des choses qui existent, la CDAO existe qui est là. Je pense qu'il y a des mécanismes qu'il faudrait utiliser. Bon, quand ce que les autres ont parlé, seulement je reprends, il y a des alternatives ou des adaptations, l'agriculture et le pastoralisme. C'est important. On a organisé un séminaire qui a été financé par le SREC, où on a amené les usagers. Et là, ce qu'on a voulu, c'est de dire aux scientifiques, vous allez là-bas et les usagers seront ici sur la table. Et les usagers, on les a laissés parler, ils ont dit tous leurs problèmes, etc. Et des choses très simples qu'ils ont demandé, qui ne nous venaient pas en tête. Supposons un pasteur, éleveur nous a dit, nous ce qu'on veut simplement, là où est tombée la première pluie. Parce qu'on sait que là où est tombée la première pluie, il faut 10 à 15 jours pour que l'herbe commence à semer. Nous, on met nos pâturages. Mais on n'a pas cette information. Ça n'a pas besoin de prévision ni de rien. Il y a besoin de prévision satellitale ou simplement des précipitations. Donc là, c'est important. Je pense que le pastoralisme peut être un truc. Et quelqu'un a parlé un peu de la pisciculture dans la matière de la gestion des eaux. Il existe aussi d'autres choses comme les programmes nationaux qu'on appelle les PANA, les NAPAS. C'est vrai, il y a des problèmes, on peut dire que ce n'est pas trop scientifique, etc. Mais au moins, les Africains sont mis d'accord sur quelque chose. Dire qu'au moins, nous, on est d'accord que tous les fonds de changement climatique passent par ici. Je pense qu'il faudrait nous aussi qu'on prenne ça, eux, comme des interlocuteurs. C'est une manière de respect, etc. Même si, personnellement, j'ai des choses contre, mais je pense que c'est des choses qui existent. Voilà un gros pour tirer un peu le débat de notre côté. Voici les réalités qui existent en Afrique, qui sont des réalités qu'il faut tenir compte. Et je pense que les autres pourront peut-être ajouter d'autres choses. Merci.
Merci à tous les six. Je vous propose maintenant de passer avec la salle pour voir s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses qui se recoupent d'une personne à l'autre. Y a-t-il des réactions dans la salle?
Oui. Réplique ça.
Plus de disciplinaire, interdisciplinaire.
Moi, j'avais surtout une préoccupation par rapport à vos deux premières interventions sur finalement c'est quoi notre vision par rapport au problème de mobilité et de pastoralisme. Comment ils voient la suite par rapport à ces histoires d'élevage, de pastoralisme, de mobilité, etc.
Il y a trois niveaux de réponse à cette question. Alors, je vais essayer de faire court. Le premier niveau, c'est que il semble malheureusement évident
que la mobilité pastorale est en état de siège par la disparition des couloirs de transhumance, par la disparition des jachères accessibles au bétail sans être à une muselière à 200 mètres de bétail, ce qui est très désagréable à faire. Et donc il y a cet état de siège qui fait que même si les sociétés pastorales arrivent à reconstruire un cheptel, ce qu'elles ont beaucoup de difficultés à faire, il n'y a plus de lieu où aller facilement. Et donc même le lieu de chute de la première pluie, si on a l'information, il faut quand même être capable d'y aller. Pour y aller, ça veut dire qu'il faut des terres non cultivées pour passer avec une série de troupeaux et se rendre là. Mais il y a bien plus dramatique, il y a la zone d'extrémité nord du Sahel qui n'est pas cultivable, il faut qu'elle soit accessible, parce que là, lorsqu'un tout petit peu de pluie passe et qu'on a le temps pour une germination, il y a moyen d'envoyer des troupeaux. Donc ça pose une série de questions. Si les troupeaux sont cantonnés au sud, on se retrouve dans des dynamiques de surpâturage, on se retrouve dans des dynamiques. Donc ça, premier niveau, c'est pas très encourageant ce qu'on voit pour l'instant. Le deuxième niveau, c'est plus mes inquiétudes, c'est de se dire, par exemple, pour s'adapter au changement climatique, on va trouver des variétés plus performantes, réagissant mieux à l'engrais, nécessitant une phytotechnique perfectionnée, et donc nécessitant des investissements qui vont demander un titrage du sol, parce que très souvent, malheureusement, les bailleurs de fonds lient mise à disposition d'une technologie d'agriculture dit avancée, bien que c'est fort grave à l'échelle de la France, que l'on dit avancer pour d'autres pays, et bien ça s'accompagne d'une dynamique d'appropriation de l'espace, l'appropriation du sol, une diminution de production des jachères aussi souvent, qui rend la mobilité du bétail encore plus en danger. Et ça, c'est une étape intermédiaire à ma troisième couche, et la troisième couche, c'est de se dire, si nous, dans nos travaux, nous nous focalisons sur l'agriculture, et si nous cherchons des solutions d'adaptation de l'agriculture uniquement face au problème du changement climatique, eh bien, nous sommes peut-être pas, en train d'hypothéquer une des stratégies de gestion du risque efficace qui peuvent exister en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la mobilité du bétail. Et c'est en fait ça qui m'a amené à vouloir participer ici, c'est cette attitude-là. En 5 minutes, je ne peux être que caricatural, il y a évidemment des zones grises dans la narration simplifiée que je fais de la situation. Et disons, alors, maintenant, d'un côté strictement pratique, vous prenez une image spot des années 80, vous avez une résolution, je ne sais pas, à 30 mètres en multispectral, et bien c'est fantastique, c'est la largeur d'un couloir de transhumance régionale. Vous prenez cette image, vous dites aux autorités politiques, et bien voilà, attention, s'il y a un choc et perte massive de cheptel, il existe un risque réel que ces couloirs soient mis en culture la saison suivante, parce qu'il n'y a plus de bétail, parce que les gens ont besoin de mettre en culture. Et bien effectuez un suivi. Et avec cette image spot, vous pourrez voir si sont mis en culture des lieux qui devraient être destinés au bétail. Ça, c'est une solution simple et concrète. Ce n'est pas à ça qu'on pense pour l'instant. Ce qu'on pense pour l'instant, c'est comment savoir le jour de la première pluie. Parce que le jour de la première pluie, le lieu de la première pluie est très important pour les pasteurs, mais le onset est fondamental pour les agriculteurs. C'est ça qui va déterminer la longueur de la saison dans leur esprit et la lame d'eau. Et donc, c'est vraiment critique, mais c'est... On ne pense pas au fait que si on donne une date de démarrage intéressante et que tout d'un coup la main-d'œuvre est là et l'espace sont là, et bien les couloirs de transhumance passeront à la trappe après quelques années. On n'y pense pas. Voilà. En termes de solutions concrètes. Alors après, ça se pose toute une série de questions pratiques. Qu'est-ce qu'on fait avec le spot? Qu'est-ce qu'il y a comme image maintenant? On n'en sait rien. Est-ce qu'on a le droit de regarder les gens par le ciel et de leur dire ce qu'ils peuvent faire? Enfin, les problèmes sont infinis. Mais disons qu'en simplifié, c'est comme ça que je peux répondre.
Pour rebondir sur ce point, vous étiez quatre, pratiquement sur les six, à mentionner les savoirs anciens, les modèles anciens, les cultures anciennes, enfin donc à chaque fois, finalement, il pourrait peut-être y avoir plus de résilience dans les connaissances anciennes que dans des modifications plus récentes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent commenter sur ce point ?
Merci. En fait, je voulais juste dire que ce que Jean-Paul vient de présenter, si je peux me permettre, effectivement, fait beaucoup réfléchir du point de vue de cette inquiétude par rapport à une stratégie qui est là, à notre disposition et qui risque de disparaître. De l'autre côté, il me semble d'insister, sans vouloir être trop optimiste, à un changement au niveau du débat international et des politiques environnementales, comme quoi ces stratégies telles que le pastoralisme, commencent à être traitées, discutées. Il y a eu une évaluation de la contribution de la science et la technologie de l'agriculture au développement qui a impliqué des centaines d'experts de toutes disciplines qui a conclu que l'agriculture est une activité multifonctionnelle. Donc, en fait, allons au-delà de la productivité primaire et, disons, pour des fins très concrètes, telles que la production de nourriture, qu'est-ce que l'agriculture peut offrir en termes de stratégie d'adaptation, par exemple. Et quand je parle d'agriculture, je parle de tout un secteur qui implique aussi les savoirs liés à la transhumance, au pastoralisme. Donc il me semble qu'on est dans une tension entre l'érosion continue de savoirs, de pratiques, et de l'autre côté, des signaux positifs, faibles, mais qu'il faut un peu
amplifier.
N'est-ce pas, et voilà, tenir au champ et porter.
Merci. D'autres questions? Hassan a un peu de mal, pas l'après-midi.
Oui, on a froid.
Il faudrait un verre de sangria.
Oui, ça va aller mieux devant le verre de sangria tout à l'heure.
J'ai une question à poser à M. Ousmane Ndiaye concernant ce que vous disiez sur l'incertitude des prévisions saisonnières. J'aimerais savoir quelle est la fiabilité du modèle CFS dont vous parlez au Sénégal. Est-ce que vous dire que ce modèle est fiable par rapport, j'imagine, plus fiable qu'en Europe occidentale, d'après certaines sorties de modèles que j'avais pu voir sur le web, on a discuté aux océans. Est-ce qu'on peut dire sur ce modèle?
Oui. Oui, en général, quand on est sur la prévisibilité saisonnière, je pense que le signal est beaucoup plus fort sur les tropiques, parce que ça vient de la température de surface de la mer. Ça, c'est un peu la science qui est derrière. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le modèle puisse être beaucoup plus fiable dans les tropiques que dans les pays du Sud du Nord. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que ça, j'ai vérifié ça dans plusieurs pays, en Éthiopie, etc. Il semble que c'est un modèle qui fait un très bon travail, le CFS. Et son skill ou sa performance au niveau du Sénégal, si tu compares les pluies de CFS, pluies observées et pluies du CFS, la corrélation en termes d'estimation est de 0,6, n'est-ce pas, 0,6 après. Et le lead time, tu peux avoir jusqu'en avril, hein, des bonnes prévisions, avril, mai, conditions initiales, ce qu'on appelle les conditions initiales d'avril ou de mai ou de juin, ont de bons skills sur l'Afrique.
Dans les autres points qui ont été abordés, oui, avant que tu
puisses. Oui, je veux bien rajouter quelque chose et me placer non plus du point de vue du troupeau ou du climat, mais
merci.
Du placeur, parce que vous savez, il y a des hommes derrière. Et alors, je crois que le vrai problème pour les hommes, c'est l'acceptabilité dans un système culturel qui est toujours en évolution. Et je vais vous donner un ou deux exemples. D'abord, les bergers peuls, effectivement, le problème des chemins de transhumance, mais leur premier problème numéro un, c'est l'eau. Surtout
c'est
dans cette zone.
L'eau.
C'est l'accès à l'eau.
Il faut parler plus proche du micro.
Allô, ça va. C'est l'accès à l'eau. Bon, vous savez, dans la zone où on travaille, il y a des forages qui apportent de l'eau quand ils sont pas en panne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelle est la culture du pasteur Peul. La culture du pasteur Peul, c'est que son troupeau, c'est à la fois un capital économique, mais qu'il use vraiment avec parcimonie. Et c'est surtout un capital symbolique extrêmement fort. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est que lorsqu'on est un jeune pasteur, on va vous remettre un petit troupeau qu'il va falloir faire fructifier. En gros, si vous partez avec 10 vaches, si au bout de 3 ans vous avez 8 vaches, vous êtes vraiment très 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 mauvais. Si au bout de 3 ans vous avez 10 vaches, vous n'êtes pas terrible terrible. Mais si au bout de 3 ans vous avez 15 vaches, là vous êtes bon. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir 15 vaches? Eh bien, il faut de l'eau, il faut s'occuper de son troupeau, etc., etc. Et surtout pas le vendre, surtout pas le manger, surtout pas le qu'on peut. Ça, c'est la première chose. Le deuxième exemple que je vais vous donner, et moi qui m'a quand même un peu halluciné, c'est l'exemple du président du PCR. Nous, on travaille dans une commune qui s'appelle Ouidou, qui est dans le nord du Sénégal, dans le Ferlo. Et le PCR, c'est très simple, c'est un pasteur, et c'est le chef parce qu'il a deux villages. C'est aussi simple.
C'est quoi le PCR?
C'est le président de la commune rurale. C'est-à-dire, si demain il y en a un qui arrive avec 2200 vaches, ce sera le chef. C'est en base. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé, parce qu'il rêvait vraiment d'aller à Paris. C'était vraiment son truc. Il fallait aller à Paris, je ne sais pas, au Moulin Rouge, enfin bref. Et je ne sais pas comment il s'est débrouillé à s'arranger avec une ONG, parce que je l'ai vu, il m'a raconté ça. Il a été au salon, pas cette année, l'année dernière. Il a été au salon de l'agriculture. Alors, le rendement moyen des vaches dans le Ferlo, c'est saison sèche 1 litre, saison des pluies 5 litres, à peu près. Et il va au salon de l'agriculture, il va tout de suite pour voir les vaches, et il voit les Hollandaises à 50 litres. Alors, il rentre chez lui, il convoque tous les pasteurs, il leur dit, les mecs, on a vraiment un problème. On est vraiment nuls, hein. Vous savez, il y a des mecs qui font 50 litres de lait avec leur vache. Bon, je vous passe tous les problèmes techniques là-bas, parce qu'il y a le problème du ramassage, il y a le problème, tout ce qu'on veut. Mais, d'un seul coup, il y a une idée par la comparaison, il s'est dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et comme lui, il n'est pas bête, il a beaucoup d'influence, etc., je pense qu'il a accepté l'idée qu'il fallait changer et augmenter la production de lait, je ne sais pas comment on va faire. Il va falloir changer l'alimentation du bétail, parce que pour l'instant, il faut avoir le plus de bêtes possible. S'il y en a 30% qui meurent, c'est pas grave, vous voyez. Donc, il vaut peut-être mieux en avoir moins, mais mieux les nourrir. Enfin, ça va obligatoirement transformer une manière d'être dans leur culture. Et moi, je trouve cet exemple très très beau, parce que, effectivement, à l'occasion d'un choc, entre guillemets, culturel, eh ben, on peut avoir peut-être un changement technique et technologique qui va pouvoir suivre. Voilà, je voulais vous raconter ça.
Merci. This is for Osman. I'm very much in agreement with the emphasis that you placed on government services for sustainability of efforts. Now, in many countries in West Africa have been embracing neoliberal policies that require a reduction of government spending and have weakened the government services, including health services. So can you tell us something about what would help the net services, the meteorological services, institutional capacity, and what could you help them to better do their work? And if you care to comment also on the relationship between the meteorological services and ASEPNA.
Thank you, Carla. Yeah, I think that's one problem, one big problem that we have in West Africa, in national services. What we need to do in the national weather service, what we need really to do in the national services is to present our information as development, as added value for the society, and try to sell it. And try also to compete in terms of having more projects and working more with more people. The problem with the government is the salary are guaranteed, there's no problem. You have the salary, yeah. But the problem is when you want to have a budget to run the activities, the day-to-day activities, it's a problem. It's very difficult for government to understand that you need some million to run some rain gorges. They cannot understand it, why they can do that. That's why I was saying here that it's easy to work with those NGOs and other projects. But here we should also think in terms of project. We need also to build capacity in the National Weather Service, knowing that those people have the data, the record, and everything here is based on the data. And nobody can want to invest in the data. That's another problem that we have in the Met services. Anybody can come and claim for the data. He was asking for the data now, saying that just we need data. And you say no, they say, why? Why don't give the data? Because they don't know behind the data. There was an observer who worked for it. It was difficult to sort this and that, and then we need this. That's one thing. The other thing that what I'm promoting in the National Weather Service of Senegal is also to develop services. If you ask me some data, I say no. But what do you want to do with the data? And then start to say, okay, if you give me maybe a computer or you give me this and that, I don't need money. My salary is guaranteed. But let's just participate to the National Weather Service and then we'll provide services. Try to provide services. That's just one thing I think the Met services should do. To see themselves as actor in the development, but not seeing themselves as just data storage or most human. That's one problem they need to transform. It's very difficult to make that kind of mind change. You know, it's very, very difficult for them. But I think we should help them, you know, to adapt in the new reality. And also, the project also need to think of funding the National Weather Service also. I think that's things that I'm thinking. The relationship between us and ASECNA is kind of, I think in West Africa, all the services was part of ASECNA at the beginning. Because aviation need to be developed. That's why ASECNA was created by French also, of course. But after that, they need also to develop the meteorological part. And then some meteorological services will develop. And after they see that, agriculture is important as activity in the Met services. Some Met services started to develop some agriculture services. But now what happened is, ASECNA didn't need all those, you know, bureaucrats, all those agriculture, health, this and that. That's not his problem, hydrology. What he needs just is some people to come to do the forecast. So now they are detached to the Met services. And what happened is, they was giving all the funding. The money, the salary, they was giving, for example, the raw wind sound, for example, they was paying for it. But now there is no money for that because ASECNA is not paying for it. So that's the problem now that we are experiencing. Somebody need to take care, to take up coffee. In some countries, what they do, they give some kind of dividend, some kind of money that they get out of the aviation to the Met services. Others, you know, join the Met service in the aviation to make it stronger, like in Senegal now. We are called ANACIM, now National Agencies for Civil Aviation and Meteorology, to make sure that the money that the civil aviation get can go to the Met services. That's a big problem. I think people need to pay attention on it. But fortunately in Senegal, people are strong enough. You know, there is a union, they fight for it and to make sure that, you know, people get, we get some money to run the Met services. But that's a problem. That's one of the challenges that exist.
Merci. Bon, je rappelle, il y a peut-être une question. Sinon, moi, j'en avais une. Vas-y. Non, je pense qu'on va arriver bientôt à la fin, mais si tu veux. J'aurais voulu savoir, dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique, il y a la notion de fonds pour l'adaptation. Comment vous voyez, ça me paraît, enfin, on va avoir, à la fois, c'est une bonne idée pour arriver à aider les pays en développement qui vont avoir des soucis face à la question d'adaptation, mais vu toutes les difficultés qu'il y a, toutes les questions qu'il y a autour de l'adaptation, comment vous voyez ces fonds et comment ça va, quel besoin de recherche, de connaissances, comment on va faire face et comment ça va pouvoir être utilisé?
Pour l'instant, ils ne sont pas là, les fonds. Hein.
Mais
c'est une grande... La communauté internationale...
Un commentaire très très rapide. En ce qui me concerne, je suis un peu inquiet parce que la présence du fonds est un bon signe en soi-même, quoique c'est un petit peu un compromis suite, disons, à l'échec des négociations de Copenhague et en partie aussi Cancun. Mais bon, c'est une bonne idée, mais en ce qui me concerne, je suis inquiet sur la compatibilité de certaines interventions qui seraient qui sont susceptibles d'être financées par rapport à l'adaptation au changement climatique, l'incompatibilité par rapport à la conservation de la biodiversité et à la durabilité de l'organisation des systèmes sociaux. Donc si vous voulez, ça ne suffit pas parce qu'on assiste actuellement à un manque d'harmonisation de l'agenda international relativement au changement climatique. Si on compare les directives existantes aux directives sur la biodiversité et au débat sur la durabilité, donc l'idée de fond est excellente, mais il faut quand même n'y est pas encore. Il y a des interventions qui vont dans la direction de l'adaptation au changement climatique qui sont peut-être positifs pour le changement climatique, mais pas du tout pour la biodiversité ou pour la durabilité sociale. Donc je pense que ça, c'est une interrogation à laquelle la communauté scientifique est susceptible de répondre de façon très significative.
Ouais. Je sais pas s'il y a une autre intervention.
Attends, il y a Luc qui va...
Sujet.
Oui, juste peut-être appuyer là-dessus, c'est que je pense aussi qu'un des problèmes, c'est que peut-être on a une vision trop compartimentée des questions. On a une nécessité d'adaptation au changement climatique. Ok. Mais on a aussi, ça a été suggéré à l'instant, une nécessité de s'adapter aussi à la crise de la biodiversité. Et puis on va nous annoncer d'ici peu, c'est en préparation au niveau de l'Union européenne notamment, que la troisième grande crise globale, planétaire, c'est la crise justement du sol, de la fertilité. Et il faut augmenter la production agricole d'un facteur quasi, entre 70% et 100% d'ici 2050 selon les projections, parce qu'il y a plus de carburant, parce qu'il y a plus de monde à nourrir, parce que les modes d'alimentation changent, etc., etc. Je ne vois pas comment on fait l'adaptation au changement climatique sur la base des connaissances disponibles aujourd'hui si on ne prend pas en compte les interactions avec ces autres crises environnementales. Et ça, c'est un problème majeur. Et je reviens à l'histoire de tout à l'heure. L'agriculture, certes, on peut aborder la question de l'agriculture par rapport au changement climatique en essayant de bricoler la plante miracle qui résiste à toutes les composantes possibles imaginables de ce qu'on appelle la sécheresse. Ouais. On peut faire ça. Sauf que la plante, elle est dans un système complexe qui va bouger aussi. Et que la question, par exemple, en agriculture, c'est comment on donne du corps à ce machin dont on parle, qui s'appelle l'agroécologie, ou pire, un concept que j'aime beaucoup parce qu'il est provoquant, comment on fait de l'agriculture écologiquement intensive, par exemple. Ça, c'est des questions qui se posent dans le contexte changement climatique, mais qui se posent dans le contexte biodiversité, qui se posent dans le contexte ressources en eau, dans le contexte... usage des sols, quand je dis ressources en eau, c'est conflit d'usage tout simplement, qui se pose aussi dans les pays européens d'ailleurs. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. C'est qu'on ne peut pas avoir une approche trop segmentée de ces questions-là. Sinon, pour répondre à des problèmes d'adaptation au changement climatique, on risque d'aggraver d'autres situations. Et à mon avis, c'est un peu la piste qu'on est en train de prendre.
Jean-Paul, tu voulais commenter aussi là-dessus ? Il y avait Alain qui était sur ce point.
Oui, moi j'ai l'impression que ce fonds d'adaptation, on peut l'appeler comme on veut, mais que c'est fondamentalement un mécanisme redistributif nécessaire face au changement climatique, et en fait face au changement global. Et on a eu l'annexe 2 qui était une espèce de posture éthique sur qui avait des responsabilités par rapport au changement climatique, et puis maintenant on a un fonds qui va plus loin en permettant, je dirais, une redistribution de richesses capturées par le passé et qui sont liées au changement climatique. Ça, c'est le premier niveau. Alors, qu'on appelle fonds d'adaptation, on fond dedans. Là, on s'y fiche complètement, en fait. La deuxième chose, c'est que si réellement ce fonds d'adaptation est appelé à être utilisé, je pense que ce que l'on a dit est fondamental, c'est au niveau du capacity building que ça doit pas se passer. Et pas au niveau de l'action ponctuelle de type adaptative, linéaire, aider à mettre des digues ou aider à mettre des refroidisseurs atomiques ou des choses comme ça. Non, c'est réellement donner aux pays plus fragilisés la capacité technique dans les services de l'État de faire face. Et c'est très différent de l'adaptation telle qu'on la comprend. C'est beaucoup plus construire des fondations pour que l'adaptation soit possible. Mais ça va plus loin, je crois.
Je crois que déjà la première chose, c'est que le fonds d'adaptation, en fait, il est en place. Il a été mis en place suite à Copenhague, donc c'était déjà en décembre 2008, et les appels d'offres sont déjà sortis. Et moi, le commentaire que j'ai par rapport à ça, parce que je suis de par mes fonctions de façon très serrée ces questions-là, c'est qu'en fait, les appels d'offres sont en train de sortir, les bureaux d'études sont en train de se positionnent déjà. J'ai appartenu pendant près de 20 ans à une organisation qui se sert grassement sur ces fonds, qui s'appelle le Programme des Nations Unies pour le Développement, et je suis atterré par la pauvreté des contenus scientifiques, des activités qui sont financées au titre de ce fonds. Et là, il y a réellement un problème, et ce que je voudrais en fait passer comme message, c'est que les choses vont beaucoup plus vite que vous me semblez l'imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la science sera en ordre de bataille, les fonds seront épuisés. Et vont être utilisés comme les fonds qui ont été utilisés pendant la grande sécheresse pour construire des infrastructures qui sont aujourd'hui des barrières en fait, au bon fonctionnement. Non seulement du pastoralisme, mais également de l'agriculture. Donc je pense qu'il est vraiment très urgent de se mettre au travail et de travailler dans les territoires.
Oui,
malheureusement, les collectivités territoriales n'ont pas un rôle chapitre dans les négociations internationales et ont finalement très peu de rôle reconnu au niveau des gouvernements nationaux. Donc, une des idées de TASC, justement, qu'on essaie de mettre en place, auxquelles faisait référence Chantal, c'est pour sécurité personne, mais d'être en mesure, effectivement, de mettre en place des processus opératoires, d'aider à améliorer le contenu scientifique de ces processus opératoires, et de s'engager dans les territoires avec les partenaires d'abord locaux, et tous les relais nationaux, privés et publics. Parce que si on ne se met pas, les temps institutionnels sont tels aujourd'hui, et moi en tant que praticien des Nations Unies, je vois le décalage qui existe entre la vitesse à laquelle fonctionne la science et la vitesse à laquelle fonctionnent les institutions internationales, quoi qu'on dise, l'opérationnel va plus vite que la science. Donc il est vraiment très important aujourd'hui de mettre la science, je veux dire, elle est au travail, mais dans l'action. Dans l'action, dans les territoires, et de façon organisée, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, la question de base qu'il faut résoudre au plan scientifique, qui paraît le plus important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de préjugés techniques, et ces préjugés, il faut arriver à les rompre. C'est des préjugés qui ont été construits par des années de développement, et j'ai envie de dire, fondamentalement, de mauvais développement, qui aujourd'hui faut remettre en cause dans le contexte du changement climatique. Et ça, c'est pas ni les écologues ni les climatologues qui vont pouvoir décoincer ces préjugés, mais les sociologues. Donc il est vraiment urgent de travailler de façon intégrée et interdisciplinaire, comme on a essayé de le faire dans les années 70, et comme on arrête, et pas comme on a arrêté de le faire depuis les années 80.
Bon, la science en carte.
Bon,
Kevin, un dernier point,
parce
qu'on
va ensuite
de l'hélicoptère. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très bon pour faire venir un structure de recherche qui peut durer ces grandes organisations, plus ou moins d'ailleurs de fond. On a en tout cas du mal dans nos structures à attirer ces fonds. Ça, c'est mon premier problème. Le deuxième problème, c'est que par rapport au fonds carbone, au financement de la station en Afrique, finalement, quand on regarde où vont les crédits, on se dit que côté Afrique de l'Ouest, il n'y a pas grand-chose, finalement, pas suffisamment de projets. Quoi. Donc, au-delà des aspects scientifiques, je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir pour savoir comment attirer cette argent sur une région qui n'a finalement pas grand chose à vendre à part l'expertise. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais il faut arriver à faire ça.
Merci. Bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre séance. Je voudrais vous remercier tous ensemble les orateurs de la table ronde. Et afin de continuer à discuter, que vous puissiez encore échanger les uns avec les autres, nous vous proposons de prendre un verre à côté. Merci à tous, à tous.
Non, on est à bon, c'est bien.